Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi bon crier dans cet univers des humanisés? Les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois vous donner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté? Celle qui tous les jours vous envoie bosser. Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon ventre.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquants juvéniles, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Donc, bruit de tôle, aujourd'hui, au sommaire de cette émission, la justice toujours en marche contre les rebelles, à Alès, des gilets jaunes et des manifestants qui passent en procès, le frère d'Adama Traoré qui lui témoigne de 5 années de prison, et les inculpés du 8 décembre, on lira un communiqué puisque l'instruction est toujours en cours et que l'un d'entre eux est toujours à l'isolement à Bois d'Arcy. Alors, en pendant de la justice, c'est la prison qui, elle, lui rend bien service. Et on ira un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur des prisons, notamment concernant les incendies de cellules et leurs conséquences. Aussi, les lieux d'enfermement et les prisons pour mineurs ou de jeunes détenus sont détenus dans des conditions illégales d'enfermement. Et aussi, pour en rajouter plus, eh bien, le projet de réouverture et de construction de nouvelles prisons. En fin d'émission, quelques news de lutte et d'un guide pratique, et puis aussi des annonces. Alors, je vous rappelle que Bruit de tôle est en direct le jeudi de 19h à 20h, tous les 15 jours, et qu'il est rediffusé le vendredi tous les 15 jours de 17h à 18h. Donc vous pouvez, pendant le direct du jeudi, si vous avez des informations à nous communiquer, nous téléphoner au 05 61 53 36 95 et de préférence pendant les pauses musicales. D'ailleurs, excusez-moi, c'est pas prêt du tout du tout. Le CD n'est pas prêt. Mais on va y arriver pour faire une pause musicale. Mais la technique, et voilà, c'est parti.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin,
C'est toujours le même qui ne veut pas et qui fait sonner les disques. Alors.
Horizon vertical qui nous parle de pur sang. Je rappe pour mes frères avec le turban. Pour celui qui a de la
vie suspens.
Pour celui pour qui crier d'urgent. Horizon vertical qui nous parle de pur sang. Je rappe pour mes frères avec le turban. Pour mes frères avec le turban. Pour mes frères avec le turban.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
De choses et mon ami.
Alors, on commence par la comédie policière en cinq actes qui se déroule à Alès, où la procédure des contraventions sans contrôle d'identité. C'est un communiqué de défense collective Gilets jaunes anti-répression, Cévennes Garrigue. Alors, cinq habitants d'Alès, dans le Gard, passent au tribunal de police le 13 décembre pour contester une contravention. La contravention dit « rassemblement interdit sur la voie publique », sans n'avoir jamais subi de contrôle d'identité. Leur dossier est vide. L'arsenal déployé pour réprimer toute contestation n'en finit pas de surprendre. Avec la crise du Covid, une fois encore, de nouveaux pouvoirs ont été donnés aux forces de l'ordre pour faire régner l'état d'urgence sanitaire, soi-disant. Au mépris des libertés, du droit de manifester, toutes sortes de méthodes ont été utilisées pour punir ceux qui sont jugés perturbateurs du bon fonctionnement de cette gestion de crise. Alors, c'est Amnesty International qui, en 2020, dans un rapport à la page 13, le dit. Arrêté pour avoir manifesté, la loi comme arme des répressions de manifestants pacifiques en France. Et cela dans plusieurs villes de France, comme à Brest, dans Lyon, à Foix, à Millau, à Thonon-les-Bains. Des contraventions ont donc été posées sans aucun contrôle d'identité et envoyées directement aux personnes verbalisées. Alès est le théâtre d'une tragicomédie bien représentative de ce pouvoir. Acte 1, le contrôle fictif. Cinq habitants du bassin alésien reçoivent des contraventions de 135 euros pour rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence est déclaré. Sans n'avoir jamais subi de contrôle d'identité, ni le jour dit, ni dans un autre lieu, en l'occurrence devant l'hôpital d'Alès, c'était le 4 juin 2020. Le budget de la production ne permettant sûrement pas de dépêcher les meilleurs acteurs, à savoir les forces de l'ordre. Donc personne, mais en tout cas quand même une amende. Acte 2, le dossier. Deux contestations sont envoyées et refusées. Les protagonistes demandent donc à être jugés auprès du tribunal de police. Deux personnes seront convoquées le 11 octobre 2021. Après consultation de leur dossier, leur avocat constate qu'aucune preuve de contrôle de leur identité n'est apportée. Ni photo, ni vidéo, ni témoignage ne figurent dans les dossiers. Aucune précision n'est donnée sur la façon donc, dont les identités auraient été relevées. Acte 3, le tribunal. Ces deux personnes de cette comédie se retrouvent dans le décor d'une salle d'audience pour jouer donc l'ultime scène dont l'ironie dépasse toute réalité. En effet, ils sont pris dans une parodie de justice bien rodée qui se joue dans les tribunaux de police. Le commissaire a le rôle de procureur. Sachant que les procès-verbaux ne sont pas suffisants, ce dernier demande un report de l'audience pour complément d'information. La décision du juge d'une nouvelle convocation au 13 décembre clôt cette scène sur une touche humoristique qui n'échappe à personne. Acte 4, le délire. L'avocat reçoit le complément d'information rédigé par le commandant qui a dressé les procès-verbaux. Et dans cette comédie, c'est, si ce n'est pas trop hilarant, en tout cas c'est bien inquiétant. Des détails ne peuvent être divulgués avant le procès, mais lorsqu'ils pourront être rendus publics, ils ne manqueront pas de corroborer l'idée que la police peut sciemment mentir afin de justifier ses actes. Une chose est sûre, jamais elle ne se dédie, même quitte à s'empêtrer dans le ridicule. Acte 5, le 13 décembre. Cet acte n'est pas encore écrit, puisqu'il se jouera lors du procès de ces quatre personnes au centre du tribunal. On peut s'interroger sur ce nouveau pouvoir qu'auraient les forces de l'ordre de verbaliser des personnes sans même avoir vérifié leur identifié, simplement parce qu'ils l'ont décidé, mais aussi capables d'écrire des inepties alors qu'ils sont assermentés. Le procédé n'est pas nouveau, il a bien été rodé depuis des années dans les quartiers populaires où la répression et la violence policière s'exercent quotidiennement. Les condamnations se décident dans des procès qui révèlent le véritable rôle de la justice, défenseur de l'État et des intérêts de la classe dominante. On constate une fois de plus, avec cette affaire, que les luttes et les mouvements sociaux, en fait, font peur aux gouvernants, à leurs sbires et aux capitalistes. Peur de perdre leur pouvoir, peur de perdre leurs privilèges, peur d'un soulèvement massif qui ébranlerait leur monde basé sur l'exploitation. Pour qu'une telle chose n'arrive pas, leurs outils répressifs sont bien rodés, policiers, judiciaires et financiers. La répression subie par le mouvement des Gilets jaunes en fut un triste exemple. Combien de manifestants gazés, mutilés, tabassés? Combien d'emprisonnés? Combien d'amendes, d'ordonnances pénales à l'encontre de personnes déjà acculées financièrement? parce qu'elles ont eu le courage de se lever, de dire stop, à un système qui profite toujours aux mêmes. Les pleins pouvoirs sont donnés aux policiers qui peuvent inventer des histoires les plus rocambolesques pour se justifier. L'État veut nous acculer pour nous faire taire, mais il ne fait que renforcer l'idée que les luttes pour la justice sociale et la liberté sont plus que jamais nécessaires. Et on s'aperçoit aussi que les nouvelles technologies interviennent dans ces faits-là, puisque souvent ce sont des caméras de surveillance ou ce sont des logiciels qui, quelque part, ont sorti du chapeau le nom de ces gens qui sont verbalisés. À Foix, ce qui s'est passé, et je crois que le procès, il y a eu relax, c'était tout simplement, alors là, ce n'est pas les nouvelles technologies, c'est simplement que la police de proximité, la police de Foix, a reconnu les gens et les a notés sur son petit carnet, et soi-disant, mais sans aucune preuve, c'est juste leur parole contre celle des manifestants. Donc là, à Alès, ça se joue le 13 décembre, et il y a une conférence de presse qui est appelée à 8h30 devant le tribunal d'Alès.
En juillet 2016, à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, Bagui Traoré et son frère Adama sont interpellés avant que ce dernier, âgé de 24 ans, ne décède à la gendarmerie. Le jour de l'interpellation, Bagui Traoré se rend sur son lieu de travail. « J'ai couru, ils m'ont sauté dessus et j'ai fini en prison. J'ai fait 3 mois, je devais sortir et c'est là qu'ils ont ramené une tentative d'assassinat. Les gendarmes sont venus me chercher dans ma cellule, m'ont mis en garde à vue, puis direct en prison. » Il n'a même pas le temps de prévenir sa famille, c'était le 2 mars 2017. Bagui Traoré a passé 5 ans en prison. Derrière les barreaux, il a subi un véritable acharnement, parloir et mandat bloqué, il raconte. La justice, l'État m'a enfermé pour rien. C'est comme si on m'avait kidnappé et séquestré. Âgé de 29 ans, il a passé 5 ans en détention provisoire avant d'être finalement acquitté par la cour d'assises du Val-d'Oise en juillet dernier. Il était accusé de tentative de meurtre sur les forces de l'ordre pendant les violences qui ont suivi la mort de son frère Adama Traoré en juillet 2016. Pour lui comme pour sa famille, cela ne fait aucun doute. S'il s'est retrouvé en prison, c'est parce qu'il porte le nom Traoré. On l'a enfermé comme plusieurs de ses frères juste parce que c'est le frère d'Adama, c'est tout un système, selon sa sœur Assa Traoré. J'ai toujours été persuadée de son acquittement. On lui reprochait d'être l'instigateur de l'émeute qui commence à 20h, alors qu'il sort de garde à vue à 1h déjà. C'est compliqué, raconte son avocat. Lors de l'acquittement, le juge Marc Trévidic a admis lui-même que ses accusations ne reposaient sur aucun élément tangible. La justice ne peut pas se passer de preuves, or c'est ce qui s'est passé dans le cas de Bagui Traoré. En plus de ses années de détention injustifiée, Bagui Traoré raconte avoir subi un traitement particulier en prison. Parloir et mandat bloqué, fouilles régulières, isolement, surveillance permanente. Dehors, le combat pour la vérité sur la mort de son frère prend de l'ampleur. C'est l'affaire qui, en France, fait éclater le sujet des violences policières. L'affaire Adama Traoré devient politique. Le comité Adama entame un bras de fer avec les pouvoirs publics. Des manifestations rassemblent parfois plus de 20 000 personnes. Pour Bagui Traoré, le traitement en prison dont il fait l'objet n'est qu'une vengeance. Tout ça, c'était pour me mettre la pression et voir si ma sœur allait se calmer dehors. Après son inculpation pour meurtre, il est trimballé de prison en prison. 3 prisons en 5 ans. Osni avec son frère Youssouf, puis Fleury-Mérogis et Bois d'Arcy. Ils m'ont fait tourner pour me faire péter les plombs. À Fleury-Mérogis, à partir du moment où il est accusé de tentative de meurtre, il est considéré comme un détenu particulièrement surveillé. Du fait de ce statut, réservé aux terroristes ou aux profils dangereux, il est emprisonné seul et subit des fouilles régulières, 2 fois par semaine. Il est aussi systématiquement accompagné par 2 surveillants lors de ses déplacements. J'étais suivi H24. À Bois d'Arcy, je faisais des crises d'angoisse, je n'arrivais plus à respirer. L'isolement devient difficile à supporter. Ce n'est pas marrant d'être tout seul dans une cellule. 1 mois, 2 mois, mais des années. Quand t'as quelqu'un, au moins tu parles.